Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.com.
When you woke me up this morning, I was feeling mighty mean. You didn't bring my coffee, and you spoiled a damn good dream. So baby, better treat me right.
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties Blu-ray et DVD, avec Le sillage de la violence de Robert Mulligan, Nightfall de Jack Tourneur, La bataille pour Anzio d'Edward Mitrick, Le champion de Mark Robson, Les mutinés du téméraire de Lewis Gilbert, tous sortis chez Rimini. Et puis il y aura quelques films HK avec Devil Hunters de Tony Liu et Le polar de la rétrocession, qui résonne donc sinistrement avec l'actualité, Full Alert de Ringo Lam, deux titres qui sont édités par Spectrum Film. Pour causer de ces sorties, hein, c'est un peu nos sorties de la rentrée, voilà, je suis accompagné de mon fidèle acolyte. Il est là maintenant depuis de nombreuses saisons, il me regarde avec son air de chien battu. Il essaye péniblement d'agiter ses griffes, et car oui, quand je parle de griffes, vous savez de qui je parle. Alors non seulement il écrit dans une revue qui s'appelle Griffes, mais en plus, il fait une étrange émission qui s'appelle À l'écoute du cinéma, qui est diffusée sur Radio Campus Amiens. Et surtout, c'est un loup-garou picard, mais là j'ai du bol, c'est pas la pleine lune. Je veux bien sûr parler de Thomas Roland. Salut Thomas.
Salut Gégé, et bien évidemment, salut à toutes.
Monsieur Ennis. J'ai vu votre article sur l'affaire de la rivière rapide au quartier général, dans la corbeille à papier. Si ça peut vous intéresser, il y a un général à une étoile qui a été limogé aujourd'hui.
Vous savez bien que ce n'est pas pour ça que je l'avais écrit. Je ne voulais nuire à personne.
Ça me semble être un morceau littéraire un peu sentimental.
Ces hommes n'auraient pas dû aller à l'abattoir, mais ils le savaient. Mais ils sont morts avant de pouvoir le dire, alors je l'ai dit pour eux.
Vous êtes féroce comme ami, monsieur Ennis.
À quelle heure fera-t-on le débarquement, colonel ?
Alors on va débuter cette émission avec le belliqueux Thomas, et parce qu'il est belliqueux notre ami Thomas. Il est venu avec un film de guerre sous le bras qui s'appelle La bataille pour Anzio, un film d'Edward Mitrick sorti en 1968.
Je connais ton amour pour les films de guerre, Gégé, effectivement Anzio. Enfin, Anzio, hein, moi je le connais sous le titre Anzio, un film réalisé par Edward Mitrick, mais aussi par Dooley Coletti, qui je crois a aussi co-réalisé un film de John Sturges avec Charles Bronson. Je crois que c'est le même. C'est le même réalisateur.
Ah, il va falloir que l'on enquête sur cet étrange personnage.
Et qui est aussi au scénario. Et donc au scénario, ils sont quatre ou cinq. Il y a Duilio Coletti et aussi Frank De Felitta. Frank De Felitta qui était un scénariste, écrivain et réalisateur américain. Et moi, je reconnais un petit peu sa patte dans ce film. Donc Anzio, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte un débarquement de l'armée américaine vers la ville d'Anzio, hein, en Italie. Mais seulement, on est à la fin de la guerre, hein, donc les Américains ils se ramènent avec leurs gros bras, ils vont casser la gueule à tous les nazis et les fascistes. Mais seulement, ça va peut-être pas se passer comme convenu, parce qu'ils vont en fait tomber dans un piège. L'unité se fait quasiment décimer. Et donc, on suit un groupe de soldats mené par Robert Mitchum. Il y a aussi Peter Falk et Robert Ryan. On suit un groupe de soldats qui essayent de se sortir de ce piège. Donc, quelque part, quand je dis que je retrouve la patte de Frank De Felitta dans ce film, c'est une sorte de huis clos à ciel ouvert, Anzio. Ils sont pris au piège, ils sont poursuivis par les nazis. Ils doivent trouver une voie de sortie pour pouvoir survivre. Bon, je trouve que c'est pas le meilleur film d'Edward Mitrick que j'ai pu voir. Je trouve que c'est un film de guerre tout à fait agréable, mais je trouve un peu trop classique dans sa facture. Et surtout, il y a un truc qui me dérange beaucoup dans ce film, c'est quand les mecs se font mitrailler, ils dansent sur place. Et ça me fait sortir du film. Là, je ne crois plus au film, je sors du film. À part ça, on peut voir que c'est un film de guerre correct, quoi, mais... C'est pas un chef-d'œuvre, pour moi ce n'est pas l'une des références absolues du cinéma de guerre, mais au moins il a le mérite d'évoquer cette fameuse bataille d'Anzio qui, à ma connaissance, n'est pas évoquée dans un autre film américain. Et si vous aimez les films de guerre et Edward Mitrick et Robert Mitchum, vous pouvez vous précipiter sur ce Blu-ray.
Et Robert Ryan et Peter Falk, hein, comme tu l'as dit, il y a de la distribution. Il y a Arthur Kennedy aussi dans le rôle du général Wesley qui est vraiment excellent. Et comme tu l'as dit, alors c'est pas le meilleur film de guerre de tous les temps, évidemment. Mais par contre, c'est un film qui a quand même une particularité, c'est de raconter un échec. Et c'est vrai qu'on est en 68, quand le film sort... on n'est pas forcément habitué, alors ça va devenir un peu monnaie courante hein, à partir des années 70, mais on n'est pas forcément habitué à avoir une description, parce que là on est en 44 quand ça se passe, hein, ce débarquement pour Anzio, hein, on n'est pas vraiment habitué à voir ce type d'odyssée de loser, j'ai envie de dire, quoi, de type perdu dans un truc plus grand qu'eux, et puis d'un échec, parce que c'est vraiment un échec qu'ils sont en train de vivre.
C'était un film qui est à mettre en parallèle avec la guerre du Vietnam, où les Américains se prennent quand même une branlée. Et pourtant, ce qui est quand même bizarre, ce qui est paradoxal, c'est que quand même Edward Mitrick s'est fait remarquer notamment par ses activités anticommunistes, vu qu'il a quand même dénoncé certains de ses camarades lors de la chasse aux sorcières. Donc il y a quelque chose, peut-être qu'on peut y voir ça, effectivement, un film sur la guerre du Vietnam, sur le fait que les Américains s'enlisent là-bas, ça serait l'un des premiers films qui évoque ça.
You're dumping me, huh?
I drew you the picture, Mitch. I asked you to see Harris. I told you he had an in. But you don't want to be
swayed. I've got a manager.
Nous allons quitter les champs de bataille, mais rester, on va dire, dans le pugilat, c'est le terme adapté, avec le champion de Mark Robson, sorti chez Rimini, avec Kirk Douglas. Kirk Douglas, l'indestructible, l'invincible, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, à l'âge vénérable, je crois, de 101 ans, quelque chose comme ça, Thomas.
101, 102.
Ouais, voilà. Mais je me rappelle de Thomas qui était en état de sidération, me disant c'est pas possible, Spartacus est mort. Voilà. Et alors, on le croyait indestructible, notre Kirk Douglas. Sacré bonhomme, sacré acteur, sacrée carrière. Et sa carrière à Kirk Douglas, elle décolle en 49, hein, avec ce film, justement. C'est là qu'il se fait connaître. Il interprète. Un personnage vraiment particulier qui s'appelle Mitch Kelly et qui, dans ce film de 49, donc un film tourné juste à l'après-guerre, et qui se trimballe son frère handicapé qui est un boiteux, hein, voilà, qui est un boxeur qui vivote un peu, c'est-à-dire comme un peu on peut voir Rocky dans le premier Rocky de John J. Alvitsen, avec Stallone qui fait des petits boulots un peu pourris et tout, voilà. L'histoire se ressemble beaucoup, quoi, hein, parce que Midge essaye aussi de séduire une jeune, jolie serveuse, évidemment, hein, qui s'appelle Emma. Et dès qu'il est marié, il arrête les petits boulots, ça, il décide de se consacrer vraiment uniquement à la boxe. Et c'est là que le film devient hyper intéressant parce que, évidemment, alors Mark Robson, très bon metteur en scène, hein, maître du noir et blanc, et qui là, comment dire, signe un film assez crépusculaire, un film noir, presque un drame en fait, où ce boxeur va complètement changer. C'est ça qui est très intéressant dans le film, c'est un film qui n'est pas manichéen en fait. On va voir ce personnage incarné par Kirk Douglas devenir par moments antipathique, par moments devenir attachant. Voilà, il va, le succès aidant, il va changer d'attitude, il va avoir des relations un peu compliquées, il va être un peu étrange, quoi. On va avoir du mal à suivre. En fait, il va être très humain. Et on est en 49, donc c'est assez rare de voir des films d'écrire des personnages aussi complexes. À la base, c'est quand même un loser, hein. Il se fait flouer. Il est toujours un peu victime d'injustice, voilà, y compris la vie ne lui fait pas de cadeau avec son frangin qui est handicapé, tout ça. Et à la base, s'il choisit la boxe, c'est aussi parce qu'il a une dette à éponger, voilà. Donc c'est tout ça, c'est un parcours un peu particulier. Et puis, ben, au fur et à mesure qu'il va gravir les échelons, il va découvrir quelque chose, voilà. C'est qu'il a, il commence à acquérir le pouvoir, en fait. Voilà. Un pouvoir de domination sur ses prochains, un pouvoir de domination sur les autres. Et du coup, c'est là que le film devient passionnant. Alors, c'est des thématiques, hein, toujours, les grands films de boxe ont toujours flirté avec le drame et le film noir, qu'on se rappelle le Fat City de John Huston avec Stacy Keach, ou Nous avons gagné ce soir de Robert Wise. Robert Wise qui partage d'ailleurs avec Mark Robson le fait d'avoir débuté un peu dans l'écurie Val Newton par des films fantastiques assez recommandables. Et là, on voit dans ce film, donc, qui n'est pas manichéen, on voit une grande performance d'acteur. On voit un Kirk Douglas capable d'être attachant, capable d'être détestable, capable. Le film tient beaucoup à lui, mais pas que ça, parce qu'il y a la mise en scène de Mark Robson qui est très sèche, très âpre, qui évite tout l'aspect spectaculaire. Et qui donc est vraiment passionnant. Puis il y a Arthur Kennedy qui est dans le rôle du frère handicapé et très 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 intéressant. Et puis il y a ce personnage aussi de femme fatale incarnée par Marilyn Maxwell, qui est une femme fatale qui devient en fait prisonnière de son personnage. Ça, c'est très intéressant aussi comme postulat et qui est développé dans le film. Et puis le film est quand même noir parce que bon, la fin est terriblement noire. Voilà, je vous en dirai pas plus, comme beaucoup de films de boxe. Mais je vous conseille vivement donc ce film sorti chez Rimini, hein, qui, comme d'habitude avec Rimini, bénéficie d'une très belle copie. Donc on vous conseille vivement de découvrir ou de redécouvrir ce classique signé Mark Robson avec Kirk Douglas et qui s'appelle donc Le Champion.
Ce soir, il prendra les 400 coups à ta chute ou à sa perte, les paris vont doubler. Être une star à la sueur de son cœur, le corps marqué par l'absence de la peur. Il s'agit pas de chats violents, juste des poids lourds dans une danse violente. Prix Pulitzer, d'expression corporelle, une collision de bulldozer, un triple accident de char d'assaut. Car il va falloir que tombe l'un de ces deux garçons ce soir. Ce soir, l'un de nous deux doit tomber en public. Depuis ton visage sur mes miroirs, couche-toi vite, j'ai une histoire à fonder. Cela implique que ce soir, l'un de nous deux doit tomber en public. Depuis ton visage sur mes miroirs, couche-toi vite, j'ai une histoire à fonder. Cela implique que ce soir, les vrais fous se font pas interner. Ils rêvent les yeux ouverts, poings fermés. De façon, y a pas de sous-métier, encore moins celui de champion du monde entier. Tellement ne savent pas, quand t'es seul sur le ring, j'en ai vu dans ce cas, leurs jeans sentaient l'urine. La vie est ironique, s'échapper des ruelles pour vivre de duels. À la fin, y'aura qu'un type à l'horizontale, le respect mutuel. Mais ce soir, l'un de nous deux doit tomber en public. Depuis ton visage sur mes miroirs, couche-toi vite, j'ai une histoire à fonder, cela implique que ce soir, l'un de nous deux doit tomber en public. Depuis ton visage sur mes miroirs, couche-toi vite, J'ai une histoire à fonder, cela implique que ce soit
la tête haute, le corps aéroporté, dans la bulle que forme la corde à sauter, instinct de survie prononcé, c'est le combat de l'épuisement contre la volonté, c'est de là qu'elle est partie l'action, une science dont vous n'avez pas la notion, courir les milliers de kilomètres, se nourrir par la force et finir honnête. Mélange douceur, le son du cuir qui cogne, il est pas né d'une cité mais d'une cigogne. Hélas, ce soir, hélas, ce soir, l'un ou deux doit tomber en public, depuis ton visage sur mes miroirs, couche-toi vite, j'ai une histoire à fonder, cela implique que ce soir, l'un ou deux doit tomber en public, depuis ton visage sur mes miroirs, couche-toi vite. J'ai une histoire à fonder, cela implique que ce soir, l'un ou deux doit tomber en public, depuis ton visage sur mes miroirs, couche-toi vite, j'ai une histoire à fonder, cela implique que ce soir, l'un ou deux doit tomber en public, depuis ton visage sur mes miroirs, couche-toi vite. J'ai une histoire à fonder, cela implique que ce soit...
Vous écoutez Culture Prohibée.
Il me manquait quelques hommes.
Quelques seulement ?
Eh bien, quelques douzaines.
C'est de pire en pire. Les marins anglais auraient-ils perdu le goût du combat ?
Je ne le crois pas. Oh. Peut-être ont-ils perdu le goût de combattre dans les conditions qu'on leur impose.
Il faut de la discipline.
C'est aussi mon avis, mais il faut admettre que la marine anglaise a la main lourde.
Retour à Thomas, mon ami Thomas, mon loup-garou picard préféré. Malgré le fait qu'il a plus un poil sur le caillou, qui décidément aime, enfin j'allais dire il aime quand ça castagne, il n'y a pas tant de castagne que ça dans le film, mais enfin c'était pour faire une transition un peu pourrie. Voilà, donc je vais laisser notre ami Thomas nous causer donc des mutinées du téméraire de Lewis Gilbert.
Oui, Lewis Gilbert, un cinéaste que je redécouvre depuis quelques années, auquel on est habitué. On associe Lewis Gilbert à James Bond, à Moonraker, L'espion qui m'aimait, puis un autre dont le titre m'échappe. Donc on a cette image de Lewis Gilbert qui fait des films un peu plutôt commerciaux, etc. Pourtant, Lewis Gilbert, c'est un cinéaste beaucoup plus intéressant, beaucoup plus personnel que ça. Et là, il signe en 62 Les Mutinés du Téméraire. Un film avec Alec Guinness, Dirk Bogarde, Anthony Quayle. Donc une distribution quand même pas inintéressante. Et c'est un film qui est, dont les deux scénaristes, Nigel Neal et Edmund Hedgenorth, s'inspirent d'un roman de Frank Tinsley, qui lui-même s'inspire des faits historiques. Des faits historiques qui prennent place pendant les guerres napoléoniennes en 1797. Donc on suit le vaisseau de guerre Le Téméraire, commandé par le capitaine Crawford, qui lui est joué par Alec Guinness. Et ce vaisseau de guerre est envoyé rejoindre la flotte britannique en Méditerranée. À son bord, il y a aussi le cruel lieutenant Scott Paget, incarné par Dirk Bogarde, et qui s'acharne sur l'équipage au moindre prétexte. Tandis que la révolte gronde, le navire s'apprête à affronter la flotte française. Hormis les James Bond, à travers qui on connaît plus Lewis Gilbert, il y a notamment ce film de guerre là, qu'il a fait quelques années auparavant qui s'appelle Couler le Bismarck, où c'est un style un peu plus âpre. Et ces mutinés du téméraire ne s'éloignent pas tellement de ce film de guerre, le cinéaste refusant de donner absolument dans le spectaculaire. Donc avant d'être un film de bataille navale du XVIIIe siècle, Le Mutiné du Téméraire est avant tout un film très humain, un film politique et la description de deux conceptions du commandement d'un vaisseau de guerre. Alec Guinness fait figure de capitaine plus clément que les autres alors qu'il est secondé par un Dirk Bogarde, cruel et sadique, qui se pense intouchable grâce à ses connexions en haut lieu. Alors avant les combats navals, le duel se fait avant tout psychologique. Lewis Gilbert filme tout cela avec une certaine sobriété, prend le temps d'installer ses personnages et il arrive à leur donner beaucoup d'humanité sans jamais tomber dans le manichéisme. Le cinéma de Lewis Gilbert se caractérise notamment par cet ancrage social qui sera très présent dans un de ses films les plus célèbres qu'il fera par la suite, qu'il réalisera 4 ans plus tard, qui est Alfie avec Michael Caine. Dans Les Mutinés du Téméraire, la différence sociale s'efface derrière l'adversité et tout le monde s'entraide pour mener le même combat. Lewis Gilbert ne fait jamais dans le style héroïque, il n'y a pas de figure plus glorieuse qu'une autre. Il décrit des hommes attachés à un travail pénible dans une rigueur quasi documentaire. On voit notamment comment il recrute les gens quand ils sont à terre. Et sur le plan de l'action, Quand deux vaisseaux se rencontrent, il évite l'esbrouf et sa mise en scène continue à donner dans un style très réaliste. Pas de musique, seuls les sons d'ambiance, les canons qui tonnent, les explosions et le cliquetis des épées rythment ces séquences. Tout cela accentue la violence des combats quand ils n'usent pas d'ingénieuses ellipses. Donc moi je recommande vivement ces Révoltés du Téméraire pour un peu réhabiliter Lewis Gilbert, donc, qui est un cinéaste finalement qu'on ne connaît pas tant que ça en France.
Ah, Lewis Gilbert, c'est quand même l'espion qui m'aimait avec Roger Moore, mais surtout avec Barbara Bach, Caroline Munro, voilà, qui a enchanté ma jeunesse. Et puis avec Richard Kiel dans le rôle du fameux Dandrequin, le gros balèze indestructible là, qui terrasse même des requins blancs à main nue. Hein, voilà, extraordinaire personnage. Voilà, que moi j'aime beaucoup. Effectivement, tu as raison, je partage ton avis. C'est vraiment un très bon film. Dirk Bogarde est vraiment, enfin, comme d'hab. Dirk Bogarde est excellent, ambigu, voilà, très fielleux, très... Voilà, et Dirk Bogarde, quoi. Voilà, comme d'habitude, hein, il fait bien le job. Alec Guinness, sœur Alec Guinness, on n'en parle même pas. Moi, je voulais dire une petite anecdote. T'as pas parlé du musicien, parce que tu dis effectivement, la musique est très bien utilisée dans le film, il fait ça très bien, Gilbert. C'est Clifton Parker qui faisait les BO, qui a fait la BO, par exemple, de Night of the Demon de Jack Turner. C'est un musicien, un compositeur de BO aussi très intéressant et un peu oublié. Et puis enfin, à titre d'anecdote, je voulais juste dire que la bataille dont on parle qui est abordée dans ce film a été mise en peinture par Turner, le fameux Turner. Voilà, une toile magnifique et une toile que on peut voir dans l'un des meilleurs James Bond, si ce n'est peut-être le meilleur pour moi, Skyfall. De Sam Mendes de 2012, puisque cette toile est dans le film. Donc j'ai envie de dire, Lewis Gilbert, Sam Mendes, il y a toujours un James Bond dans le coup, quoi, dès qu'on est chez les Britons.
Oui, cette toile qui est au British Museum, et non à la Tate Britain, là où il y a l'essentiel des toiles de Turner.
Je sais que monsieur est connaisseur de Turner, puisque tu t'étais rendu en Angleterre juste pour voir l'expo, parce que tu es fan de Turner.
Ah oui, j'adore Turner, ouais. C'est mon peintre préféré, ouais.
Some men climb a mountain, some men swim the sea, some men fly above the sky, they are what they must be. But baby, the rain must fall, baby, the wind must blow, wherever my heart leads me. Baby, I must go. Baby, I must go. I do not love for silver. I do not love for gold. My heart is mine to give away. It never will be sold. So, baby, the rain must fall. Rich or famous, but who can ever tell? I don't know now what waits for me. Maybe heaven, maybe hell. Maybe the rain must fall, maybe the wind must blow.
Restons chez Rimini avec le sillage de la violence. Une nouvelle pépite hein, signée du grand Robert Mulligan, cinéaste mésestimé et aujourd'hui, quand même, depuis quelques années, qui commence à être apprécié à sa juste valeur. Et énormément, il faut le souligner, grâce au travail de certains critiques, mais aussi de Jean-Pierre Vasseur, là, le patron de Rimini, hein, parce qu'il a sorti un paquet de films de Mulligan depuis quelque temps. On sent que c'est un réalisateur auquel il s'intéresse. Si vous voulez en savoir plus un peu d'ailleurs sur Jean-Pierre Vasseur, je vous invite à lire l'entretien qu'on a eu avec lui, parce que pendant le confinement, il fallait bien qu'on s'occupe. Hein. Et on s'était entretenu avec le patron de Rimini, qui nous avait un peu expliqué le pourquoi, le choix de ses films, tout ça. Enfin, je vous invite à lire cette interview sur notre blog culture-prohibé.blogspot.com. Le sillage de la violence, c'est l'histoire de Georgette et sa fillette qui rejoignent en bus le Texas dans l'espoir d'y retrouver Henri, époux et père de famille, récemment libéré de prison. Voilà. Alors, attention, gros casting, hein, puisque en vérité, cet homme libéré de prison n'est autre que Steve McQueen. Voilà, il faut le savoir. Qui essaye une fois de plus là de casser son image avec un rôle un peu à contre-courant des rôles héroïques auquel il est souvent rattaché. Et Georgette, hein, pas de bol, hein, c'est chacun son prénom, hein, mais c'est Lyra Mick, qui est excellente, bien sûr, actrice aussi un peu oubliée. Alors, Baby the Rain Must Fall, donc Le Sillage de la Violence, c'est un film de 65. C'est le huitième de Robert Mulligan, et qui est un réalisateur, Mulligan, comme d'autres de son époque, on pense à Sidney Lumet aussi, vient de la télé. Et il apprend son travail à la télé. Il a effectué tous les métiers du cinéma. Il a apporté les cafés, il s'est occupé du courrier. Enfin, comme plein de types qui arrivent dans le milieu du cinéma à cette époque. Donc, il connaît tous les rouages d'un film. Il maîtrise tout l'aspect technique. Voilà, la télévision est à l'époque une école incroyable. D'ailleurs, il suffit pour s'en persuader de voir les grands films de Mulligan. Il n'a pas fait beaucoup de mauvais films. Hein. Un mauvais Mulligan, c'est juste un film moyen, un mauvais Mulligan. C'est, voilà. Mais par exemple, To Kill a Mockingbird, qui est extraordinaire. L'autre, grand film fantastique. Voilà. Un été 42, très très beau film. Et c'est pas évident pourtant, hein, sur le sujet d'un adolescent qui tombe amoureux d'une femme plus âgée que lui. Voilà. Ça aurait pu donner un peu un truc graveleux, un truc. Non, là, ça donne. C'est une sorte de parenthèse enchantée dans la vie d'un cinéphile que de voir ce film très touchant. Et tous ces films, il les a fait parce qu'il a travaillé aussi avec un producteur qui deviendra cinéaste, un producteur qui était son ami. C'est Alan G. Pakula. Voilà, Alan G. Pakula, dont on a un peu, par rapport à ses derniers films, c'est un peu comme Frankenheimer aussi, qui, de la même époque, vient de la télé, tout ça. On a un peu oublié Alan G. Pakula, parce qu'on pense à ses derniers films, là, comme L'Affaire Pélican, tout ça, qui sont des films un peu moyens, on va dire. Mais il y a eu le Alan G. Pakula de début de carrière, hein, Clute, À cause d'un assassinat, Les Hommes du Président, voilà, qui était un réalisateur extraordinaire, hein, qui a eu un moment dans sa carrière extraordinaire, son début de carrière, hein. Est absolument unique. Mais alors, un cran au-dessus, il y a Robert Mulligan, donc un réalisateur rare, réalisateur avec un talent immense. D'entrée de jeu, il nous met dans une ambiance particulière avec un générique très soigné. Il y a une caméra qui est braquée sur la route, on roule à toute vitesse et tout à coup, des lignes horizontales affrontent des lignes verticales. Voilà, ça c'est très typique de ce que fait Mulligan. Il y a toujours tout a un sens, en fait. Hein. Et on retrouve Lyra Mick, sa fille, qui retourne au Texas pour retrouver Steve McQueen, libéré sur parole. Je n'ai pas dit qu'il était aussi chanteur. Voilà. Il pousse la chansonnette, d'ailleurs, hein, dans le film. Et il vit surtout sous le joug d'une mère acariâtre qui fait parfois voyager le film aux confins du fantastique. C'est une sorte de... Steve McQueen, c'est une sorte en fait d'enfant qui dans un corps d'adulte, hein, dans ce film, je crois que c'est assez clair. Et c'est un des thèmes récurrents, hein, du cinéma de Mulligan. Et tout le contraste qu'on voit dans le film, cet affrontement entre la verticalité et l'horizontalité, c'est quelque chose qu'on voit dans le générique, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tout le film. Hein. Et cette histoire d'amour impossible, elle est composée donc c'est un film sombre, hein, mais elle est composée d'images très lumineuses et le film est très beau, très touchant. L'esthétique est très travaillée. Mulligan, on dit un peu de lui, comme Lumet, que c'est un adepte du style invisible. C'est un mot, certains critiques, qui est souvent employé. Parce que c'est pas une réalisation tape à l'œil, mais c'est une réalisation où chaque plan est au service de l'intrigue. Et voilà, moi, je dirais qu'en plus, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'effectivement, je vous l'ai déjà dit, hein, certaines scènes sont à la limite du fantastique, hein, dans les relations entre McQueen et sa mère, qui est absolument infecte. Voilà, parce que la structure familiale en prend un coup là chez Mulligan, ça rigole pas. Hein, voilà. Et alors pour moi, c'est un grand film, hein, jusqu'à ces dernières minutes que je trouve assez glaçantes.
Il s'agit, tu disais que Steve McQueen casse un peu son image avec ce film. Bon, c'est sa deuxième collaboration avec Robert Mulligan. Avant, il avait déjà fait un film qui s'appelle Love with the Proper One avec Natalie Wood, si je ne me trompe pas, qui est une espèce de plutôt une comédie romantique, toujours déjà en noir et blanc, et on reconnaissait bien déjà le côté intimiste, un peu noir de Mulligan. Et effectivement, ici, Steve McQueen joue un rôle un peu un contre-emploi, où effectivement, ce personnage d'enfant dans un corps d'adulte qui veut absolument vivre de sa musique. Mais vivre de sa musique inclut une certaine violence. Il est tiraillé entre vouloir vivre de sa musique, cette vie nocturne qu'il mène, où on devine qu'il aime bien chercher la bagarre, draguer des femmes, etc. Et vivre une vie plutôt paisible avec l'Irémi, qui est la fille qu'ils ont ensemble, etc. Donc effectivement, c'est un film pas forcément en guilleret, mais c'est un excellent Mulligan, comme beaucoup de films de Robert Mulligan. Et effectivement, il y a aussi ces scènes un peu fantastiques où le personnage essaie de tenir tête à sa belle-mère, parce que c'est sa belle-mère en fait, hein, c'est pas sa vraie mère, c'est elle qui l'a adoptée, où il essaie de tenir tête à sa belle-mère et il n'ose pas rentrer dans sa chambre, mais cette chambre en haut des escaliers qui peut rappeler par la suite ce film de Dan Curtis, Burnt Offerings. Il y a quelque chose de très similaire avec cette chambre qui est en haut, qui est inaccessible presque, où on n'ose pas aller, et avec cette vieille dame derrière qui est une sorte de mégère, une figure un peu démiurgique. Et effectivement, c'est un grand film de Mulligan qui demande à être découvert ou redécouvert.
Alors, me concernant, pour le coup, ça a été une découverte. Hein. Je dois bien avouer que je ne connaissais pas ce film. Je remercie Rimini. Hein,
Mulligan, c'est quand même un cinéaste qui n'est pas... Enfin, il y a eu des DVD qui sont sortis, mais il faut quand même tomber dessus. Ils sont maintenant épuisés. Mmh. Et ce n'est pas un cinéaste qui est tant célébré que ça, en fait. Hein.
C'est en train. Ouais. C'est actuellement. C'est-à-dire, on est en train là, de redécouvrir, effectivement, Mulligan. Il y a eu des cycles à la télévision... En 2019, il y a eu des choses. On commence à découvrir le talent de Mulligan, enfin. Donc, il faut savoir quand même que Mulligan, puis je vais arrêter là sur Mulligan, parce que le temps tourne, mais il faut quand même savoir que Mulligan, suite à un échec artistique, a décidé d'arrêter sa carrière, considérant que le public ne comprenait plus ses films, qu'il était plus fait pour le cinéma. Voilà. Et donc, il a arrêté du jour au lendemain, comme ça, suite à un échec... L'échec de son dernier film. Et c'est quelque chose qu'on peut découvrir dans un documentaire sur Mulligan qui doit être disponible sur Canal Plus à la demande, puisque c'était passé sur les chaînes ciné classiques, tout ça. Enfin, je vous le conseille, c'était très, très intéressant. Je pense que c'est le seul documentaire qui existe sur Mulligan de toute façon, donc c'est forcément intéressant. Alors, tu parlais de fantastique à l'instant, de Burnt Offerings, Trauma. On l'appelle aussi Trauma, ce film de Dan Curtis, qu'on avait d'ailleurs chroniqué dans l'émission, qui est d'ailleurs, c'est rigolo, il est sorti chez Rimini aussi, dans une belle édition en Blu-ray.
What do you want?
A few honest words.
From you?
Right now, two men are coming over here to pull you out of your respectable little world so fast, you won't know what hit you.
Why me?
Because you were unlucky enough to talk to me tonight.
The screen brings you a new adventure in astonishment.
Why don't you get it over with?
What do you think I'm gonna do, kill you?
Yeah, I think you're gonna kill me.
He's acting pretty cool.
Why not? 350,000 claims, why couldn't he be cool?
I don't know where the money is.
If I left you here, they'd find you in no time.
Even if they didn't, I'd want to go with you.
You're the most wanted man I know.
Terror and rapture between dusk and dawn. Adventure that sweeps you to fever pitch at a Hollywood fashion show. Turns you icy cold with dread in the snows of the Wyoming Rockies.
It might be around here someplace.
It's all here. I just counted it.
You're unlucky, fella. You're not lucky at all.
Vous écoutez Culture Prohibée, spéciale sortie Blu-ray et DVD.
Lovely you, underneath the wreath of heaven's pale blue.
Je vais rester, je vais terminer sur l'horizon des sorties Rimini avec un autre maître du fantastique, mais pas pour un film fantastique. C'est Jacques Tourneur. Jacques Tourneur, réalisateur de Vaudou, de Rendez-vous avec la peur, voilà, l'immense metteur en scène Jacques Tourneur, d'origine française Jacques Tourneur, voilà, mais qui a fait toute sa carrière aux États-Unis, ou quasiment toute sa carrière aux États-Unis. Et là, je vais parler de Nightfall, un film de 1957, qui est un film noir avec Aldo Ray, Anne Bancroft. Qui raconte l'histoire de James Vanning, donc Aldo Ray, qui est en fuite. Et puis, parce qu'en fait, il est soupçonné d'avoir volé le butin par deux malfrats, d'avoir volé le butin qui appartient à deux malfrats. Puis il y a également un enquêteur d'une compagnie d'assurance qui le poursuit aussi. Alors, dans un bar à Los Angeles, il rencontre Anne Bancroft, qui est un jeune mannequin en quête de célébrité. Et au moment où il va se faire rattraper par les truands, il décide de prendre la poudre d'escampette avec cette jeune femme. Et il part dans les montagnes enneigées du Wyoming. Et ça va donner donc un film très particulier qui est adapté d'un roman de David Goodis. Hein, David Goodis, très très grand. Très grand nom, très grande figure du roman noir, voilà, qui est par exemple à l'origine de ce film merveilleux de Delmer Daves, là aussi réalisateur complètement mésestimé, oublié de l'histoire du cinéma, qui s'appelle Dark Passage, un grand film en vision subjective pendant un long moment avec Humphrey Bogart, enfin, un film assez génial quand même. Hein.
Un film aussi à la limite du fantastique.
Complètement, vraiment, pour moi je trouve c'est un excellent film. Hein, voilà. Alors, Là, on est sur un film dans une toute autre ambiance. En plus, qui utilise énormément les flashbacks et où on retrouve un héros typiquement tournerien, si j'ai envie de dire. Voilà, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Puisque ça rappelle effectivement, il a beaucoup de similitudes avec le personnage principal de La Griffe du Passé. Autre film de Jacques Tourneur. Alors c'est mieux La Griffe du Passé, hein. Nightfall c'est quand même moins bien que La Griffe du Passé, mais c'est un film très intéressant. Déjà parce que c'est un film qui nous mène un peu en bateau. C'est-à-dire qu'au départ, enfin, dans le bon sens du terme, attention, il n'y a pas de roublardise chez Tourneur, hein. Au départ, le film se passe la nuit, Los Angeles, c'est très urbain, on est vraiment dans quelque chose de très film noir classique. Et puis, tout à coup, on se retrouve dans des montagnes enneigées. Quoi. Voilà. Ça donne un contraste étrange, un décor très particulier. Ça fait un peu le même choc que la première fois lorsqu'on voit Le Grand Silence de Corbucci. C'est-à-dire, c'est bizarre un film noir dans la neige. C'est un peu étrange. Et c'est vraiment une idée en plus de Tourneur, parce que le bouquin de Goodis se passe à New York en fait. Et lui, il décide de transposer ça et à Los Angeles et dans la région du lac Tao, à Bridgeport. Voilà. Donc, du coup, Tourneur joue, mais alors de manière très fine, sur les contrastes, évidemment. Et les changements, c'est du noir et blanc, mais le changement, comment dire, les changements du personnage, son évolution, est induit aussi par l'environnement, par ça. Enfin, c'est très bien foutu, hein, c'est très bien fait. C'est du Tourneur, hein, voilà. Et donc, il y a le côté rédemption, hein, qu'on retrouve dans plein de films noirs. Et lui, c'est effectivement le rédemption, c'est le blanc de la neige, la rédemption. C'est, voilà, il se retrouve lui-même. Et puis, bon, il y a comment dire,
Il y a vraiment un gros travail de mise en scène, quoi. C'est-à-dire qu'on retrouve, à travers l'utilisation de jeux d'ombre, à travers l'utilisation, par exemple, de travelling qui révèle tout à coup qu'on a un personnage dans le dos, on retrouve ce côté très flippant du cinéma de Jack Tourneur. Tout le monde se rappelle dans La Féline, cette scène de baignade avec simplement une ombre. Jack Tourneur nous terrorise. Voilà, c'est le cinéaste du hors-champ, Jack Tourneur, quoi. Et on retrouve un peu ça, là, dans cette manière de filmer. Alors, le film, en plus... dure même pas 1h20, donc c'est très rythmé. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Je ne peux que vous conseiller vivement ce très bon film noir atypique de Jack Tourneur, qui, s'il n'est pas un chef-d'œuvre, est un très bon film noir devant lequel vous passerez un très bon moment.
écoutez Culture Prohibée.
Nous allons rester dans le polar, mon cher Thomas, mais alors ce coup-ci, plus du tout dans le film noir classique. Hein, on va basculer, quoique, on va y revenir. On va basculer dans une île autrefois paisible, du temps où elle était une colonie britannique. Je vais parler de Hong Kong. Hein, on va aller du côté hongkongais, avec deux films sortis chez Spectrum Films. Alors, un éditeur quand même qui mérite une plus grande reconnaissance, je trouve, parce qu'il est en train de s'imposer en tant que leader sur le créneau du cinéma asiatique. Et on ne parle pas beaucoup de cet éditeur, en fin de compte. On parle tout le temps d'HK Vidéo ou de collections qui paraissent chez d'autres éditeurs, et c'est très bien d'ailleurs. Hein. Mais là, on a un éditeur vraiment qui a une ligne éditoriale très particulière, parce que spécialisé dans le cinéma asiatique, et qui s'est fait en plus... pour la joie et bonheur de certains cinéphiles comme moi, hein, voilà, le plaisir de ressortir, là, depuis quelque temps, les grands films un peu cultes de cette période magique qui ont été les années 90, même 70-80, mais aussi 90, à Hong Kong, où on avait une production vraiment très, très importante et de films très, très impressionnants. Alors, parmi ces films impressionnants, il y a donc Devil Hunters de Tony Liu, sorti en 87, et Full Alert de Ringo Lam. Alors, on va parler du Ringo Lam après, qui est quand même un cran dessus, parce que là, on est dans un grand film. Enfin, voilà, je vous en dirai plus après. Mais on va commencer par le Tony Liu. Donc, Devil Hunters, sorti en 89. C'est un film avec, entre autres, alors ça va parler aux amateurs de cinéma de HK, c'est avec Sibel Hu, Moon Lee, Alex Mann et, je ne sais jamais comment dire son nom, mais il est toujours dans tous les bons coups, Francis N.G. S'écrit N.G. son nom, voilà. Mais il est dans tous les bons coups, hein. Lui, c'est... Voilà, et puis il y a plein d'autres habitués des productions de l'époque. Alors, le pitch est assez simple. Sibel Hu est une inspectrice, elle est sur la piste d'un trafic de bijoux, et lors d'une transaction entre deux clans mafieux, une suspecte nommée Bing, qui est campée par Moon Lee, donc, sème la panique, hein, et l'échange vire au carnage. Et cette confusion permet à Xing, donc interprété par le fameux Francis N.G., d'enlever son patron, Maître Sam, pour tenter de savoir où sont cachés les bijoux. Parallèlement, la fille du chef mafieux prend contact avec Fong pour lui proposer de faire équipe afin de retrouver son père. Eh oui, vous avez tous deviné que tout le monde va joyeusement se friter jusqu'au dénouement dans ce monument de bourrinage sur pellicule. Alors voilà, c'est Devil Hunters, c'est un actionneur de dingue, comme on produisait à l'appel l'ex-colonie britannique à la grande époque. Ici, ce sont des femmes qui tiennent les flingues. Elles n'ont rien à envier aux hommes, croyez-moi. Les trois actrices principales, Sibel Hu et Candyman en fliquette et Moon Lee dans le rôle de l'étrange Bing Moon, envoient de la savate. Le film dure moins de 90 minutes hein, pour 1h10 d'action. Voilà, côté mec, on remarque surtout Francis N.G., affublé quand même d'une des pires coiffures de sa prolifique carrière. Hein. Il passe beaucoup de temps à se recoiffer d'ailleurs dans le film. Et bien que la mise en scène et le découpage soient parfois brouillons, Tony Liu arrive, grâce à un sens démentiel du rythme, à faire passer la pilule. Dans les 10 dernières minutes, gunfight et kung-fu explosent à la tronche de l'amateur de cinéma d'action décomplexé qui n'en demandait pas tant sérieusement. Il n'y a qu'à Hong Kong qu'on produisait de tels films. Voilà, alors un peu le summum de tout ça produit avec beaucoup plus d'argent. Et pour vous donner une idée un peu du genre de film que c'est Time on Tide de Chu Hark, voilà, qui est une sorte d'opéra d'action comme ça absolument extraordinaire. Donc voilà, on vous conseille donc ce Devil Hunters. Et quand je dis que des films comme on en produisait à Hong Kong, bah oui, parce que je parle là au passé, même si dans la péninsule on produit toujours du cinéma, mais vu les événements qui s'y déroulent actuellement, les craintes de voir la créativité artistique se dégrader sont quand même bien réelles. Surtout qu'il y avait quand même une qualité que j'aime beaucoup dans le cinéma et qu'il y a dans la plupart des grands films hongkongais, il y a de l'ambiguïté. Donc j'ai peur qu'on se retrouve dans un cinéma un peu plus propagandiste. Voilà. Suivez mon regard. Hein. Bon, voilà. Alors on va parler maintenant d'un film qui est considéré comme le polar de la rétrocession par certains critiques de cinéma. C'est Full Alert de Ringo Lam qui est sorti en 97. Alors Ringo Lam, malheureusement, lui, il est décédé en 2018 à seulement 63 ans. Alors c'est le réalisateur qui a réalisé des films de dingue quand même, Mad Mission 4, City on Fire, Prison on Fire, c'est souvent on fire avec l'ami, et puis Le Temple du Lotus Rouge. Alors
Et Full Alert, c'est le premier film d'un diptyque extraordinaire avec l'acteur Lo Ching-Wan. L'autre est le singulier The Victim, sorti en 1999. Si vous n'avez pas vu The Victim, que Jean-Pierre Dionnet avait sorti dans sa collection Asian Movie, je crois, ou Asian Star, ça s'appelait. Je vous conseille de le voir. C'est vraiment un film hors norme. On ne sait même plus dans quel genre de film on est quand on regarde The Victim. Et dans Full Alert, alors, l'histoire est toute simple. C'est un flic qui arrête un meurtrier. Mais disons que très très vite, ce flic a des doutes sur la culpabilité du criminel et il le soupçonne de préparer quelque chose de beaucoup plus spectaculaire. Une sorte de hold-up, le hold-up du siècle. Voilà, quelque chose d'incroyable. Alors, en 97, quand Ringo Lam fait le film, beaucoup pensent qu'il n'a plus la niaque, qu'il s'est vendu au dollar US et aux grands studios. Qu'en fait, voilà, sa crainte de la rétrocession, comme d'autres cinéastes, hein, comme John Woo, comme Tuar, qui ont tous tenté l'aventure américaine, en fait, hein, fait que, il part faire des films avec Van Damme, tout ça. Enfin bon, bref, c'est plus le Ringo Lam qui était un metteur en scène passionnant. Eh bien, que nenni, les amis, que nenni, parce que Ringo Lam revient et il sort un film alors qu'il est sur un canevas archi usé, la confrontation entre un flic, Lo Ching-Wan, et un truand, encore Francis NG, hein, décidément, qui est dans tous les bons coups. Hein, de toute façon, je ne sais pas combien de films il a fait, l'ami Francis. Et le film de Ringo Lam, c'est un film complètement à part. C'est un film désespéré, c'est pour ça que beaucoup l'ont appelé le film de la rétrocession, en fait, parce que c'est un film désespéré, un peu désespérant aussi, hein, il faut reconnaître, voilà, c'est pas très gai. C'est vraiment un film noir, noir comme l'ébène, d'une beauté plastique sidérante, parce que c'est un film qui est hanté. Hanté donc par le spectre de la rétrocession, mais aussi parce que ses personnages sont hantés. Et Full Alert, c'est la description, en fait, pour deux personnages de la fin d'un monde, de leur monde. Voilà, c'est-à-dire qu'à la fin du film, ils seront plus jamais pareils. C'est Full Alert, si on devait comparer, il y a le hit de Michael Mann, et Full Alert, c'est un peu son pendant hongkongais, quoi, le film de Ringo Lam. C'est un film, en plus, alors je parle de fin du monde, alors vous attendez pas à voir surgir des hordes de sauvages sur des véhicules surpuissants à la recherche du dernier litre d'essence dans un paysage aride. Non, ici, le flic torturé est confronté à un meurtrier. C'est aussi simple que ça, c'est un polar sans concession, quasiment anti-spectaculaire. D'ailleurs, l'idée du meurtre, et c'est quelque chose qui revient souvent, parce qu'en fait, quel est le plus meurtrier des deux ? Enfin voilà, il y a quel impact a le fait de tuer quelqu'un sur l'état d'esprit d'un personnage ? C'est un film très radical, en fait, très 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 radical, où en fin de compte... On se met en plus à avoir de l'empathie, pas forcément pour le bon personnage. Voilà. C'est un film où il y a très peu d'action. C'est vraiment une confrontation. Alors, quand il y a de l'action, il y en a. Hein, ça envoie. Hein. Mais c'est vraiment un film très particulier. Et voilà, moi, j'ai envie de dire, voilà, film radical, film noir radical. Un film quand même méconnu, Full Alert, de Ringo Lam. Les aficionados de cinéma asiatique connaissent ce film et l'aiment beaucoup, mais il serait temps qu'il soit découvert par la communauté cinéphile. Donc je vous invite très grandement à voir Full Alert de Ringo Lam, qui est sorti chez Spectrum Film.
And I was gripped by that deadly phantom. I followed him to the hard jungles as he stalked through the backlots, strangling through the night shades. Oh, the fear of life. Moved onwards and outwards to love. In a one-stop-only motel, the storm bangs on the cheapest room. The phantom slips in to spill blood, even on the sweetest honeymoon. Oh, the killer of love caught the last name. Niagara Falls. By chance. Or escaping from misery. By suddenness or in answer to pain. Smoking in the dark cinema. See the bad go down again.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radiographite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Rolandi, le loup-garou Picard. Il y avait Damien Demey à la technique and the last but not the least pour l'accompagner. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin. Salut les gens, à la prochaine.
Smoking in the dark.